prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, la parabole des vignerons.
Et puis je vous propose que nous fassions une lecture. C'est dans l'évangile de Matthieu, un texte. C'est une parabole, Matthieu chapitre 21, verset 33. Alors, Matthieu chapitre 21, verset 33. Écoutez une autre parabole, nous dit Jésus. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Voilà pour la situation de notre réflexion, cette situation dans notre Bible, dans l'Évangile. Tout d'abord, donner le sens, l'objet de la parabole. Pourquoi Jésus a-t-il donné cette parabole? Tout simplement parce que Jésus veut faire sentir à ses auditeurs leur culpabilité. Oui, leur culpabilité. Et l'objectif de Dieu n'est pas tant de culpabiliser. Écoutez bien la suite. Non pas d'irriter les hommes, mais plutôt celui de créer un sentiment de repentance, également le besoin de vérité et de salut. Pourquoi Jésus donne cette parabole? Et c'est le sens de toutes les exigences et de la sévérité de l'appel de Dieu dans certaines circonstances. Et nous allons voir ces circonstances, parce que Jésus est inspiré par une sagesse qui n'est pas une sagesse humaine quand il parle, et particulièrement dans la multitude de ces paraboles. Il ne peut y avoir de vraie repentance, parce que c'est tout le sens, il ne peut y avoir de vraie repentance et de salut sans prise de conscience de nos fautes. Eh oui, c'est quelque chose de très important, la repentance. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait, et puis, sans rien d'autre. Alors, c'est pour ça que Jésus parle de cette manière. Il y a donc, d'abord dans un premier temps, la conscience de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés, et ce qui doit entraîner également une conscience de notre misère morale. de dire, eh bien voilà, je suis comme ça. Et c'est toute l'œuvre de Dieu, c'est toute l'œuvre de la parole de Dieu, c'est l'œuvre de la parabole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies et dans les cœurs. Il s'agit d'un message à l'adresse précisément des chefs religieux d'Israël, démontrant leur conduite inique à travers toutes les époques. Jésus va s'adresser à ces hommes, ce jour-là, dans ce temps-là. Mais quelque part, eh bien, c'est certainement eh bien, le même discours que Dieu a tenu par les anciens prophètes d'hier. Et à travers le message que nous ouvrons ce soir, comme à travers d'autres paroles que Jésus nous laisse, c'est tout simplement, eh bien là, amener les gens, amener les hommes, particulièrement ceux qui, peut-être, sont très fiers de connaître Dieu, qu'ils n'échappent pas à la règle de la nature pécheresse. Et qu'à ce titre, eh bien, ils ont besoin de faire une rencontre avec Dieu. Et en l'occurrence, les chefs religieux du temps de Jésus auxquels ils s'adressent, c'était des gens qui avaient véritablement la fibre de cette croyance en Dieu, on l'a dit, avec une marque de piété très forte, mais ils étaient réprouvés par Dieu. C'est terrible, hein ? Cette réprobation de Dieu du fait de leurs actes et de leurs comportements coupables. Parce qu'ils enseignaient les autres. Ils disaient aux autres ce qu'il fallait faire, mais eux ne le faisaient pas. Ils s'arrogeaient le droit d'être les maîtres à penser, les directeurs de conscience, d'énumérer les lois de Dieu, mais on le voit par exemple dans un autre texte de Matthieu, au chapitre 23, vous pourrez le relire, Jésus va faire un réquisitoire sans appel par rapport à ce comportement. Et ces gens se disaient, bien, puisque nous allons au temple, puisque nous faisons ceci, nous faisons cela, nous servons Dieu, nous avons une profusion de traditions, de rites, alors on est hors d'atteinte et nous sommes certainement de bons croyants. Or, Jésus va les bousculer dans leur raisonnement. Et il y a un fait significatif, c'est que les auditeurs du moment auquel Jésus parle, eh bien, combleront la mesure de leur péché par le meurtre de Jésus, quelque temps plus tard, et ils ont été eux-mêmes les instigateurs de la croix. Ils ont été eux-mêmes, tout simplement, eh bien là, ceux qui ont crucifié Jésus. Ils l'ont réclamé à corps et à cri, parce qu'ils étaient animés d'un état d'esprit, d'une certaine mentalité, dont ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde, et ils agissaient avec un pouvoir absolu. Ouais, ils dominaient le peuple. Et ils méprisaient finalement eh bien, les gens. Mais ils étaient particulièrement portés par souvent de la jalousie à l'égard de Jésus, c'était ça, de la haine. Et ils étaient persécuteurs, et ils étaient marqués par une certaine forme de fanatisme. C'est pourquoi Jésus va leur donner cette parabole. Et on va le découvrir ensemble. Dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui dira cela. Au chapitre 16, et il dira ceci, en parlant des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui ont fait cette expérience, qui se sont repentis, qui ont entendu la parole de Dieu et qui véritablement ont mis en acte ce qu'ils entendaient et qui ont changé de vie, il dira, mais tous ces gens qui vous dominent, tous ces gens qui vous imposent ce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de faire ou de vivre, ils ne se contentent que de dire, eh bien Jésus dira, ils vous excluront de leur synagogue, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Ça, c'est une aberration. Ça s'appelle le fanatisme. Et ça, c'était le fanatisme auquel Jésus était confronté à son époque, et c'est aussi le fanatisme que nous connaissons encore de nos jours, où des gens, eh bien là, quelquefois, souvent, eh bien, au nom de Dieu ou d'un Dieu, eh bien, imposent aux autres ceci et cela, et ils sont aveugles sur eux-mêmes. Donc, Jésus donne ses paroles. Et il ajoutera ceci, toujours dans l'évangile de Jean, « Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Parce que quand on connaît le Père, quand on connaît Dieu et quand on connaît Jésus, les sentiments qui sont à l'intérieur de nous-mêmes sont tout autres. Ce ne sont pas des sentiments de jalousie, des sentiments de haine, des sentiments de condamnation, de fanatisme, mais des sentiments avant tout d'amour, de respect et de compréhension, pour faire en sorte que les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, puissent y accéder vers lui, et recevoir son message. Donc, Ça, c'est le comble de la bonne conscience. Vous vous rendez compte, ils vous mettront à mort au nom de Dieu. Comble de la bonne conscience. Et Jésus commence cette image, il dira, il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie et y creusa un pressoir et bâtit une tour. Il la ferma à des vignerons et il s'absenta. Il y a une explication toute simple, c'est que le maître de maison qui est pris en image, qui plante une vigne, c'est Dieu. Qui a fondé dans ce monde de péché, dans ce monde de rejet de la vérité, de la lumière, eh bien, un royaume de vérité, de justice et de paix. Et tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament s'accordent à dire la même chose. Dieu a créé, malgré tout ce que les hommes sont dans leur déchéance, dans leur corruption, Dieu est venu vers eux et il leur a fait cette proposition, qui n'est autre que la proposition de cette bonne nouvelle de la grâce, à travers la personne de Jésus-Christ. La vigne, pour rester dans le contexte de cette image, représente la nation d'Israël, en particulier hier, du temps de Jésus et avant. Mais cette parabole s'adresse à l'homme en général, l'homme d'aujourd'hui, les hommes que nous sommes aujourd'hui. Et nous voyons que Dieu va ajouter à cela un choix de miséricorde et d'attention. Il a mis autour de cette vigne qu'il a plantée, il y a apporté toutes les précautions, tout ce qui est nécessaire, il y a planté autour une haie, un pressoir et une tour. Nous voyons et nous comprenons par ces mots de Jésus que le maître n'épargne aucun soin à sa vigne pour qu'elle produise du fruit, et en espérant que ce soit de bons fruits. Voilà les choses. Je ne vais pas tirer sur le sens de ce que Jésus nous enseigne, mais imaginons que la haie, que ce maître, ce vigneron, fait disposer autour de cette vigne, eh bien, cette haie, en quelque sorte, ce sont les limites, c'est le cadre, c'est la protection. Et Dieu donne aux hommes aujourd'hui, si nous représentons cette vigne, eh bien, tout simplement le rôle de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous limite, elle nous cadre et elle nous protège. Dieu a donné des paroles pour eh bien, que ces trois aspects soient véritablement eh bien, en notre faveur. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous protéger, pour nous cadrer et pour donner des limites. Et nous avons besoin d'en prendre conscience. Ensuite, il y a ajouté un pressoir sur place. Souvent, dans les récoltes et dans les vendanges, on amène ça dans une coopérative. Mais là, il a mis un pressoir sur le terrain même où est plantée sa vigne. Et l'image du pressoir, c'est un peu la... Le pressoir, c'est un instrument, un gros instrument qui sert tout simplement à transformer, à presser le raisin pour qu'il donne du jus. Et ce jus va faire tout simplement du vin. Ça, c'est l'office, en quelque sorte, du Saint-Esprit qui transforme la nature mauvaise humaine en vie régénérée. Voilà, Dieu nous a donné sa parole, mais il nous a donné aussi le Saint-Esprit qui éclaire sa parole ou qui nous éclaire par sa parole pour que nos vies à l'état brut eh bien, puissent être transformées dans quelque chose de meilleur. Du raisin, un jus et du vin, le nectar, en quelque sorte, et nous sommes appelés à cela. Et puis il y a mis une tour. La tour, c'est l'image de la surveillance, de la protection. Et si Dieu a mis une tour dans l'âme humaine, on l'appellera tout simplement la conscience, qui doit normalement permettre le choix entre le bien et le mal. Et on n'a pas besoin d'avoir été dans une école de théologie pour savoir ce que c'est que le bien et ce qu'est le mal. Intuitivement, nous le savons. Nous avons des réactions. Nous avons des signaux qui nous montrent dans un sens ou dans un autre. Et ça nous rend forcément responsables. La tour, au milieu de cette vigne, c'est en quelque sorte, eh bien, ce qui surveille. Quelque chose qui nous protège également. Quant au vigneron, dans cette explication de cette parabole, les vignerons, c'est le type des chefs religieux juifs qui sont pris en quelque sorte pour les fermiers locataires. Vous avez vu avec moi, le maître fait planter une vigne, il va y apporter tous les soins dont nous avons parlé il y a un instant, mais il va la fermer. C'est comme ça que l'on dit ? Oui. Hein ? Il va le mettre en quelque sorte en gérance à des, tout simplement, des fermiers locataires avec lesquels un contrat légal a été conclu. Quand on sait que la nation d'Israël était régie par un sacerdoce, les Lévites, les sacrificateurs, c'était infiltré cette caste religieuse très, très réputée que l'on appelait les pharisiens, les sadducéens de l'autre côté, en quelque sorte il y a eu un contrat légal et il fonctionnait sur ce contrat légal. Il n'y avait pas plus légaliste que les pharisiens. Alors ils ont fonctionné comme cela. Et ça a été conclu entre Dieu, eux, entre le maître et puis les vignerons. Ça, c'est toute l'image du sacerdoce israélite. Et puis nous voyons qu'à un moment donné, eh bien, il nous est parlé que ce maître va s'en aller. Donc l'absence du maître évoque la confiance. Ouais. Quand vous avez quelque chose, quand vous avez une propriété, quand vous avez un bien, ben, vous restez à côté, vous le surveillez, vous le gérez, mais vous ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'est que Dieu, après avoir donné sa parole pour nous aujourd'hui, après avoir donné sa parole et le Saint-Esprit, eh bien, nous avons à nous montrer responsables. Les hommes ont la liberté. C'est ça ce qui est important. Et de cette liberté, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons faire fructifier ou nous pouvons tout simplement, eh bien, là, laisser les choses dans l'état et on sait que ça ne va jamais très loin. Donc, cette absence du maître qui est évoquée dans cette allégorie, eh bien, évoque la confiance qu'il place en ses métayers. Dieu a fait confiance aux sacrificateurs, aux lévites, et puis à tous ces gens qui portaient très haut la foi, la croyance en Dieu. Il leur a fait tout simplement, eh bien, foi, il leur a fait confiance. Et toute disposition prise en bien et en vue du bien. Tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas pour le mal. Maintenant, c'est vrai que l'homme a des vues tout à fait différentes. Et quelquefois, il se sert même du nom de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de tout ce que Dieu a pu faire d'une manière ou d'une autre, eh bien pour produire un fruit qui est tout à fait le contraire de ce qui est attendu. Or, le temps de la récolte arriva, nous dit le texte, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Alors ça, c'est quand même étonnant. Vous voyez que ça ne va pas dans le bon sens. Tout propriétaire, à l'image de ce vigneron, peut s'attendre à recevoir le produit de ses biens. C'est tout à fait normal. Il en est le propriétaire et le maître. Dieu, en tant que créateur et seigneur, est en droit d'attendre et d'exiger les fruits de la vie morale des hommes, de la vie religieuse des hommes, de la vie spirituelle des hommes. Il est en droit. Nous sommes ses créatures, il est notre créateur. Et ça, c'est important. Et peut-être, si nous allons un peu plus loin en ce qui nous concerne, nous qui avons donné notre vie, non seulement au Seigneur, mais pour son œuvre, je dirais que il est en droit aussi d'attendre, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'il pourrait attendre de ses créatures et de ceux qui lui appartiennent ? D'abord, c'est la reconnaissance, le respect de sa personne. L'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ouais. C'est la sainteté. C'est la fidélité, puis bien d'autres choses comme ça. Il est question donc de ce propriétaire, il est question de ses serviteurs, auxquels il fait confiance. Ce sont ses intendants et administrateurs qui parlent et réclament les droits du maître et en son nom. Toute institution religieuse ou institution spirituelle a pour vocation de parler de Dieu, de parler en son nom, et de faire connaître finalement qui est Dieu. Si nous nous reportons dans l'image, on s'aperçoit que Dieu va donner en gérance cette vigne et il leur fait confiance. Et c'est à eux, tout simplement, de gérer. Et dans l'histoire d'Israël, ça a été les prophètes, les serviteurs de Dieu de toutes les générations, qu'il a envoyés pour exhorter, pour stimuler, pour conduire, pour guider la nation d'Israël. Donc tous ces hommes, à travers tous les temps. Mais quel accueil ont reçu justement tous ces prophètes, tous ces hommes de foi, tous ces serviteurs. Quel accueil. Il nous est dit qu'ils ont été battus, ils ont été tués et ils ont été lapidés. Quand vous lisez l'histoire de la nation juive, surtout dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, dans tous ces livres que l'on appelle les livres historiques de la Bible, vous verrez que ça a été terrible. Quand on regarde tous ces missionnaires ou tous ces hommes à travers notre christianisme depuis 2000 ans, qui ont, au nom de Dieu, proclamé le message de l'Évangile, voulu faire connaître le message biblique, amener les gens à la repentance, à une véritable conversion, non pas à une religion, mais à Dieu, avec les fruits que l'on appelle la nouvelle naissance, une transformation, où la manière dont souvent les religions officielles les ont traités, c'est ce qu'on a appelé les massacres des guerres de religion. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ou même dans notre dispensation à nous, ça a été toujours marqué, comme dit Jésus, ils ont été battus, ils ont été tués, ils ont été lapidés. Je vous ferai remarquer qu'il y a quelque chose qui est à signaler, c'est la graduation de la méchanceté jusqu'au supplice cruel, battu, tué, mais tué pas n'importe comment, lapidé. C'est une mort affreuse. De recevoir des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Graduation de la méchanceté. Une remarque à faire, Jésus souligne qu'il y a là une attitude odieuse et criminelle, révélant le fond et la nature des vignerons. Ils n'aiment pas. Ils sont remplis de jalousie, ils sont remplis de haine, parce que l'autorité du maître les insupporte. Comme la parole de Dieu, comme l'autorité de Dieu, comme tout simplement toutes ces vertus qui sont dans l'Évangile, quelquefois produisent le contraire de ce que l'on pourrait s'attendre, où les gens deviennent méchants, ils deviennent haineux, ils deviennent injurieux devant l'Évangile. Ça, c'est incompréhensible. Et pourtant, l'histoire est là pour nous le montrer. Une histoire qui a été écrite avec de l'encre et du sang, tout simplement, ou du sang. Oui, partout, on le voit dans les discours de Jésus, on le voit dans la manière dont Jésus a été traité, on le voit à travers les premiers disciples des temps apostoliques, on le voit encore aujourd'hui dans certains pays où la persécution fait rage. Parce que tout simplement, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, du maître, les insupporte. Ils ne supportent pas. Soit ça sera la moquerie, c'est souvent aujourd'hui la moquerie, parfois aussi et très souvent aussi l'indifférence, mais c'est toujours la même chose, c'est le rejet. Alors il a envoyé un premier contingent de ses serviteurs, il a envoyé encore d'autres serviteurs. Il y a deux idées qui ressortent de l'attitude du maître, c'est sa patience et l'impunité apparente et momentanée des coupables. Devant toutes ces choses, devant ces fêtes, on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit-il pas devant toutes les iniquités et les injustices des hommes? Parce que Dieu est patient. Parce que on pourrait se dire aujourd'hui, mais comment se fait-il? Je ne comprends pas la patience de Dieu. Mais si vous voulez comprendre la patience de Dieu, pensez qu'il a été patient avec vous. Qu'il a été patient avec nous, qu'il a été patient avec moi. Autrement, je ne serais pas là ce soir. Alors, s'il a été patient avec moi, tolérons, comprenons qu'il peut être patient encore, même si ça me choque. Même s'il y a des choses qui se passent dans le monde, et je me dis, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Ouais. La patience et cette impunité. La patience de Dieu nous est donnée sous cette forme-là, dans 2 Pierre chapitre 3, il nous est dit simplement que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ouais. Peut-être que si nous étions au poste de commandement de Dieu, il y aurait longtemps que les problèmes seraient réglés. On se dit, mais quand on voit tel dictateur ici ou là, dictateur quelle que soit sa casquette, politique, sociale, militaire ou même peut-être religieux ou spirituel, on se dit, mais ça ne peut pas durer longtemps. Hein. Si on avait la capacité de lui régler son compte, on le ferait. Ah oui, mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Hein. Parce qu'on s'est aperçu quelquefois, même les plus grands mécréants, ceux qui ont été des persécuteurs et même des bourreaux des autres, on a vu, dans certains cas, qui au dernier moment se sont convertis. Ah ! Quand on voit, par exemple, les deux brigands à la croix, il y en a un qui va s'endurcir et qui dira « Moi, jamais, je croirai !» Et puis l'autre qui, à un moment donné, observant, d'abord vivant et supportant sa propre souffrance, voyant l'attitude de Jésus, va lui dire tout simplement « Mais, tu sais, hein, tu penses à moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Eh oui, et peut-être que ce brigand était un criminel de sang, enfin un meurtrier et tout ce que... Voilà. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Alors pour nous, c'est difficile à supporter parce qu'on se dit « Mais comment peut-on endurer de telles choses? Comment peut-on vivre de telles choses? Et Dieu ne fait rien. » Parce que la grâce existe. Oui. Et la grâce est supérieure à la loi. Parce que s'il n'y avait que la loi, il n'y aurait plus un homme sur la terre aujourd'hui. Ça, c'est clair. Hein. Eh oui, mais la grâce subsiste. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que la grâce? Jusqu'où va la grâce? Jusqu'où Dieu est capable de... Parce que Dieu voit. Hein. Parce que Dieu voit tout ce qui se passe. Ici, là, et il entend tout, et il sait toutes les turpitudes et tout ce qu'il peut y avoir. Finalement, parfois même d'inspiration diabolique dans le comportement des hommes. Hein, parce que ça vient d'en haut. Donc la grâce existe. L'impunité des pécheurs, mais il arrive un temps où la justice apparaît, et c'est la suite. Il nous est dit enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Cette notion de respect suggère cette attention, cette crainte et cette déférence, parce que c'est le fils du roi, dans la parabole. C'est le fils du vigneron, du maître de la vigne. Pour nous, dans une signification eh bien, spirituelle, qui ne reconnaît pas dans ce fils, Jésus, naturellement, ça coule de source, Jésus qui a envoyé dans ce monde, dans la vigne de ce monde, pour parler aux hommes, leur faire du bien, les sauver du jugement. Et c'est bien pour cela que toute la Bible a été résumée dans un seul verset que vous connaissez. Je le rappelle, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu a tant jugé, non, c'est tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné dans sa vigne, il a donné dans le monde son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il croit. Parce que dans cette notion, tout simplement de respect, il y a avant tout et en premier lieu, la confiance. Faire confiance, faire foi. Mais le cœur humain est aveugle, et c'est ce que nous allons découvrir. Il est orgueilleux, il est méchant, et il ne respecte rien. Pour preuve, le verset suivant, 38, « Quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. On connaît l'histoire. On connaît ce qui s'est passé. La Bible nous en parle longuement. Les Juifs, du temps de Jésus, ont mis à mort leur Messie. Les hommes ont tué leur Sauveur. Et il était pourtant venu pour les sauver. Voilà le résultat. Vous avez vu. Il y a une expression dans ce verset, il est dit ceci, « Voici l'héritier ». C'est intéressant que nous nous arrêtions sur tout simplement ce que Jésus nous dit, « Voici l'héritier ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'homme, quel qu'il soit, juif ou non, ne veut en aucun cas que Dieu règne sur sa vie. Ouais. Dans une autre parabole, Jésus mettra en lumière la réaction de ses contemporains qui n'est autre que la réaction du plus grand nombre des hommes dans notre monde. Nous ne voulons pas, en parlant de Jésus, que cet homme règne sur nous. Donc, il y a un rejet catégorique. Or, les autorités religieuses juives, malgré leur incrédulité, avaient le pressentiment que Jésus était l'héritier, en d'autres termes, le Fils de Dieu. Ils se bouchaient les oreilles et les yeux en disant « ça ne peut pas être le Messie, ça ne peut pas être le Fils de Dieu ». Et on sait combien ils vont chahuter méchamment, avec acharnement, Jésus, pour lui faire dire « mais qui es-tu ?» Mais ce n'étaient pas les réponses que Jésus pouvait leur donner, parce que Jésus, même quand il leur donnait des réponses, il ne voulait pas en croire encore. Et ça les renforçait encore contre leur prévention et leur préjugé contre Jésus. Donc l'héritier, il savait qu'avec les miracles que Jésus faisait, avec les paroles d'amour qu'il donnait, ces actes dont il frappait la terre, mais pour le bien, eh bien il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui venait d'en haut, mais il se refusait obstinément de le reconnaître. Et en le crucifiant, il pensait qu'il resterait maître et possesseur incontesté du royaume. Vous avez tout le scénario de la crucifixion là, à travers cette parabole. Et vous avez remarqué, c'est une des dernières paraboles avant la croix. Hein. C'est intéressant de le prendre en considération. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il craignait que le royaume de Dieu, le royaume annoncé par Jésus, à travers le message de l'Évangile, qui est cette bonne nouvelle, eh bien que le royaume de Dieu, supplantant le judaïsme décadent. Alors il s'était dit, mais on va perdre notre aura, on va perdre notre réputation. Si notre religion meurt à cause de ce Jésus de Nazareth, ce pseudo-prophète, pensait-il, alors à ce moment-là, il ne restera plus rien du tout. Nos temples, nos synagogues, et puis tous nos rites et tout ça, ça ne tiendra plus, ça n'aura plus lieu d'être. Alors il craignait, et valait mieux se débarrasser tout de suite de ce qu'il prétendait, ce qu'il croyait être un imposteur. Donc le fils, l'héritier. Vous savez que tout réveil, le renouveau, la renaissance, on pourra mettre tous les mots que vous voulez, le retour aux sources dérange l'institution. Et les Juifs, au moment où Jésus est venu en Palestine, eh bien, le judaïsme était un monument institutionnel. Il ne fallait pas bouger une pierre, il ne fallait pas bouger quoi que ce soit. C'était bien établi, c'était la religion d'État, c'était la religion de Dieu, il n'y avait pas autre chose et on n'avait pas à penser autre chose. Et alors quand Jésus est venu, je peux vous dire que, comme l'on dit, il a donné vraiment un coup de pied là dans tout ça. Hein. Eh oui, un coup de pied parce que c'est le mot, au temple c'est ce qui s'est passé. Hein. Prenant le fouet, renversant tout ce qu'il y avait, et de dire, mais vous avez fait de la maison de mon père, qui est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. On comprend que quand ils ont vu ça, les autres, ils se sont dit, ben, il faut absolument le liquider, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Hein. Il faut l'éliminer. Hein. Mais est-ce que c'est étrange, ce comportement? Je vous rappelle que c'était quand même le nec plus ultra de la société d'Israël, la société religieuse d'Israël qui a fait cela. Est-ce étrange? Mais quand on lit, par exemple, un autre texte, c'est toujours Jésus qui le dit, dans Jean chapitre 3, après avoir dit « car Dieu a tant aimé le monde », il est dit ceci, « la lumière étant venue dans le monde, les hommes, écoutez bien le mot, hein, c'est un verbe terrible, les hommes ont préféré, ils ont fait un choix, ils se sont déterminés à ceci au lieu de cela ». Ils ont préféré, c'est terrible, mais les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leur manière de vivre, leur mentalité, leur état d'esprit, c'était quelque chose qui était mauvais. Ils le savaient. Mais tout en le sachant, ils ne voulaient pas changer. C'est bien le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent tous aller au paradis, ils veulent tous aller dans le ciel, etc., etc. Mais la chose qu'ils refusent absolument, c'est de changer de vie, de se laisser transformer par Dieu. Car quiconque fait le mal, ajoute Jésus, est la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et c'est bien ça la finalité de la repentance. C'est qu'à partir du moment où un homme dit « j'ai péché, je me suis trompé », il y a ceci et cela dans ma vie, c'est mauvais. Eh bien, il se met à la lumière, il s'expose à la lumière. mais non pas pour la condamnation, pour qu'il en soit délivré et qu'il devienne lui-même lumière. C'est ça la grande différence. Par l'effet de la grâce de Dieu, tant que l'on garde, tant que l'on cache, eh bien on va rester dans les ténèbres avec une mauvaise conscience, avec de la culpabilité, ceci et cela. Voilà. Parce qu'il est la lumière et il préfère le mal. Alors au lieu d'accepter de se repentir, dissimulant leurs crimes précédents, étouffant la vérité de leurs actes criminels, les vignerons commettent l'innommable, le meurtre, parce qu'ils diront « tuons-le », mais ils vont ajouter aux meurtres, comme ça se fait encore aujourd'hui, « on tue pour avoir », et après, ils ont commis le vol. Ils ont tué pour voler. Emparons-nous de son héritage, puisqu'il est l'héritier. C'est un fait divers, quotidien. Vous avez des gens qui se font agresser dans leur maison. Vous avez toutes sortes de spoliations. On commence à se débarrasser du possesseur, de celui qui détient quelque argent ou quelque fortune. On le tue et après on s'empare de ses biens. En disant, bien, moi vous savez, je suis au-dessus de tout soupçon, ni vu ni connu. C'est toujours le même processus, hein. C'est terrible ça. Tuons-le, emparons-nous de son héritage, meurtre et vol. C'est un petit peu ce que David a fait avec Bathsheba, Uri, et puis, voilà. Et lui, il avait fait le contraire. Il a commencé par voler, après, pour dissimuler son vol, il a tué. Celui qui cherche à se justifier lui-même, sans passer par la repentance sincère, sera conduit à commettre le mal encore davantage et en importance. Eh oui. C'est ça le problème. C'est ça ce que Jésus veut faire comprendre à ses détracteurs. Et on pourrait appeler ça la spirale infernale du péché. Peur d'être découvert, peur de perdre sa réputation, connaître le désaveu général, perdre son image de marque. Et c'est bien ce que les pharisiens, c'est bien ce que tous ces gens auxquels Jésus s'adresse, eh bien, se garder le plus possible. Ils voulaient toujours avoir l'image, la réputation, tout en étant sale, tout en étant méchant et mauvais. Et ça s'appelle tout simplement de l'orgueil. Et le premier péché a commencé par l'orgueil. Et ça finira dans l'orgueil. Et c'est une vaste hypocrisie qui est suivie de mensonges, qui est entretenue par la méchanceté, qui, eh bien là, devient quelque part un brûlot à l'intérieur des consciences et des cœurs que l'on appelle la haine. Et tout est permis, y compris la violence et le crime. C'est ce que Jésus leur dit. Et nous voyons qu'au verset 40, dans notre texte, puisque c'est une étude, une petite méditation ce soir, nous voyons que Jésus force, par une interrogation, ses auditeurs à prononcer leur propre condamnation. Eux qui avaient souvent prononcé la condamnation sur les autres. Jésus va les prendre au piège, non pas que Jésus piège, mais ils ont besoin de se renvoyer le jugement à eux-mêmes. Et ça me rappelle une belle parole que nous avons aussi de la bouche même de Jésus. Il nous est dit que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et si les hommes sont condamnés et sont jugés, c'est eux-mêmes qui vont se juger. Il leur renvoie. C'est eux-mêmes qui seront au tribunal pour se juger. Pas besoin d'autre chose. Alors, Jésus va leur suggérer une question. Et il va dire, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Et ils vont répondre, comme ils le sont, en aveugle. Et ils vont donner une réponse d'aveugle, parce qu'ils vont dire, tout simplement, il fera périr misérablement ces misérables. Ils ont prononcé eux-mêmes le jugement sur eux. Ils se sont accusés, condamnés eux-mêmes. Et vous savez que quand on regarde de près l'histoire de la nation d'Israël, en l'an 70, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je rappelle peut-être simplement pour mémoire, mais en l'an 70, les armées romaines ont investi tout à nouveau la Palestine sous les ordres du général Titus, envoyé par l'empereur à Rome, de Rome. Et il a rasé Jérusalem, il ne restait pas pierre sur pierre. Tout a été rasé. ce qui a fait que les Juifs, à partir de cette année en 70 de notre ère chrétienne, se sont répandus dans le monde entier, ce que l'on appelle la diaspora, dans tous les pays du monde, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du temps des nations, eh bien les Juifs ont été dispersés. C'est eux-mêmes qui ont prononcé leur condamnation. Et combien, hélas, le peuple juif, dont nous avons des sympathies, combien ce peuple juif a été persécuté, a été maltraité, a été pourchassé, a été, comment pour dire, exterminé pendant 20 siècles. Eh oui, ça fait partie de, à l'origine, la racine, c'est cette parabole que Jésus leur dit, que Jésus leur donne. Et à la croix, ce sont ces mêmes gens qui, dans encore un mouvement de révolte et de résistance à Dieu, dira, au moment où il était question de relâcher Jésus et de faire condamner Barabbas, qui lui était un véritable coupable, eh bien, ils diront, mais crucifie, crucifie-le, et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, on est en 2010, et voilà que le problème n'est toujours pas réglé. Encore une fois, le but de Jésus, et ça c'est une remarque à faire aussi au passage, n'est pas de condamner, mais d'amener ses auditeurs à considérer que les misérables en question ne sont autres qu'eux-mêmes. Quelquefois, il y a des gens qui prennent beaucoup de légèreté ou beaucoup de risques en se servant de la parole de Dieu et en se servant de la parole de Dieu pour les autres, se condamnent eux-mêmes. Et tout cela dans le but qu'ils se reprennent, qu'ils se ressaisissent en disant « Mais si véritablement Jésus ?» Ce qu'il nous a dit, c'était la vérité. Si c'est la vérité, si quelque part il m'appelle moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résister, je vais dire non. J'ai la possibilité de dire non, j'ai la liberté de dire non. Ou alors peut-être que je me laisse fléchir et j'écoute. Et à ce moment-là, je commence à être un petit peu plus souple, à mettre derrière mon dos mon entêtement et de dire mais c'est peut-être là mon salut. Alors c'est là où il faut le saisir. Une unique solution tragique, conséquence pour l'impénitent endurci, cet enseignement à méditer du verset 42, il est dit, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle ?» Jésus veut signifier à ses interlocuteurs que ce fils, cet héritier, que ce fils assassiné, parce que c'est le mot, hein, ce fils crucifié, enfin, bientôt crucifié, sauvagement, c'est lui, il est l'envoyé de Dieu que ces vignerons eh bien, rejettent et méprisent. Et Jésus va devenir pour l'humanité, pour les Juifs, hein, dans tous les temps, ce que l'on a appelé, ce que la Bible appelle la pierre d'angle ou la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est parlé d'une pierre qui est rejetée. Rejetée pourquoi? Parce que Jésus a été tout simplement condamné par tous. Il a été dédaigné, il a été méprisé pour finir crucifié. Dieu avait envoyé cette pierre de salut pour la nation élue. Il l'avait envoyé pour le monde entier encore aujourd'hui. Et les hommes, vous savez, une pierre qui vous gêne sur le chemin, vous donnez un caillou, vous donnez un coup de pied dedans, elle va aller dans le fossé. Eh bien, c'est ce que les hommes ont fait, c'est ce que les hommes font encore. Un coup de pied et on dérange parce que cette pierre nous gêne. Tout simplement. La pierre de l'angle est celle qui supporte un édifice et se place comme fondement et soutien de deux murs. Bon, je ne sais plus, dans les constructions aujourd'hui, il doit y avoir d'autres processus, je suppose, mais depuis les temps immémoriaux, les hommes ont construit des maisons. Et on la place à un angle, comme ça, elle est là, cette pierre, et elle va être la fondation, elle va être la retenue de deux murs qui vont se croiser en angle comme cela. Et ça donne de la solidité. Donc on a bien compris que Jésus est la pierre angulaire de toute vie religieuse, de toute vie morale et spirituelle. Et rejeter Jésus et bâtir sa vie sans lui, ce n'est que de la folie et illusion. Et Jésus le mettra aussi dans une image, une parabole, le fou qui a construit sa maison sur le sable et le sage qui a construit sa maison sur le roc. Sermon sur la montagne dans les évangiles. C'est très pertinent, les enseignements de Jésus. C'est pourquoi, dira-t-il, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et nous avons là, pardon, une application pratique. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à d'autres. Entendons et comprenons par là qu'Israël perdra son privilège et sera rejeté. C'est toute l'épître, enfin une partie de l'épître aux Romains, écrite par Paul. Israël a perdu la prééminence. Peuple élu, maintenant peuple de côté, peuple mis à part, il s'est mis à part lui-même par incrédulité. Pourtant, après avoir été choisi, après avoir été béni, avoir été porté jusqu'aux cieux par Dieu, par ces grands hommes de foi, ces prophètes, la loi et autre chose, et ce royaume sera donné à d'autres. Et devinez à qui ce royaume a été donné ? À nous, les païens. Israël a perdu son privilège, mais c'est nous qui l'avons tout simplement reçu. Ce qui a fait que l'Évangile est devenu une bonne nouvelle universelle. Ce n'était pas l'exclusivité d'un petit peuple qui s'appelle Israël, mais pour le monde entier aujourd'hui. La réjection d'Israël a été notre bénédiction et notre enrichissement. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus pourra dire « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et c'est venu jusqu'à nous, à travers le temps et l'espace, tout simplement. Ça, c'est une grâce de Dieu. Et ces païens que nous sommes, les nations païennes qui croiront en Jésus, eh bien, se tourneront vers Dieu par le moyen de la foi. Les Juifs mettaient tout sur la loi. Maintenant, la dispensation est une autre. C'est la même consonance. Ce n'est plus la loi, c'est la foi. Mais les Juifs sont invités à la foi. Et c'est plus facile que la loi. Mais il faut l'accepter dans son cœur. Certains diront, eh bien, c'est trop difficile. Moi, je veux faire quelque chose. Mais comme le tout accompli a été prononcé à la croix, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez plus qu'à croire pour être sauvé. L'incrédulité des uns et la foi des autres. Et aujourd'hui, Israël attend toujours son Messie, alors qu'il est venu depuis 2000 ans. Je finis. Mais surtout, cette tragique destinée pour les incrédules et les obstinés. Deux aspects de l'achoppement sur lequel les pécheurs vont trébucher. Celui, dit Jésus, qui tombera sur cette pierre, entendez par là la pierre, c'est Jésus, s'y brisera. La pierre gisante au sol, où l'incrédule aveugle vient s'y briser. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais il est aveugle parce qu'il est incrédule. Il ne croit pas, tout simplement. Et c'est le Seigneur dans son état d'humiliation, cette pierre sur le bord du chemin, dans son état d'humiliation, l'Évangile qui a été méprisé, déconsidéré, que l'on ne prend pas au sérieux. Et il y a l'avertissement et l'appel de Dieu auquel l'on ne prend pas garde. Ça, c'est Christ humilié. La croix, tout ce que nous dit l'Évangile. Alors il est bien dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et combien d'hommes et de femmes, hier et aujourd'hui, se brisent sur l'annonce de l'Évangile. Ils se disent, mais l'Évangile, qu'est-ce que c'est? Ils méprisent. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible que l'on puisse être sauvé par quelqu'un qui s'est humilié au point de donner sa vie, de mourir pour les autres. Alors, parlez-moi d'autre chose, mais parlez-moi de ça. Le salut, c'est pas ça. Il va s'y briser, tout simplement, par incrédulité. Et pourtant, il y a un passage qui résonne dans l'Évangile. À la fin de l'Évangile, dans le livre des Hébreux, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et puis, il y a ce deuxième aspect, plus brutal, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La pierre tombant du ciel, il y avait la pierre qui était sur le bord du chemin, on l'a vu il y a un instant, mais maintenant c'est une pierre qui tombe du ciel, on l'appellera météorique ou autre chose. Elle tombera sur les impies, les rebelles et les profanes. C'est l'image significative du jugement inattendu et soudain de Dieu, tombant sur les hommes à un moment ou un autre, inconscient, inconséquent, indifférent, insouciant, soit par le retour de Jésus, parce que Jésus revient, ou alors par la mort brutale de certains, c'est-à-dire la mort des hommes, tout simplement. Alors je crois qu'à travers tout cela, eh bien, nous avons une leçon. Et je dis que les paraboles de Jésus sont pleines de sens, elles sont pleines d'interpellations, d'avertissements, mais derrière, il y a toujours cette main tendue de Dieu qui appelle les hommes, quels qu'ils soient, religieux ou non, peu importe, mais en faisant sentir à chacun qu'il a besoin de se repentir et qu'il ne se couvre pas, qu'il ne se drape pas du manteau de la religion en espérant être sauvé avec ça. Non, tous les hommes sont pécheurs, ils sont perdus et ils ont besoin de croire que Jésus a été donné comme sauveur et Seigneur, sauveur de leur âme et Seigneur de leur vie. Alors on a, à travers cette parabole, eh bien, ceux qui vont croire, puis ceux qui vont refuser. Donc l'image de ces vignerons qui se révoltent contre l'appel qui leur est adressé pour les sauver. Et tout ça, pour raison d'incrédulité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et on va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur, parce que nous croyons que c'est la parole qui agit. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un message en soi, mais c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que nous voulons, eh bien, laisser agir dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous voulons te demander que nous avons entendu. Et maintenant, après avoir entendu, nous ne voulons pas, Père éternel, eh bien, faire démonstration de révolte ou d'incrédulité, Seigneur, ou tout simplement nous rebeller parce que ça ne nous convient pas, ou cela ne nous plaît pas. Mais nous voulons, Seigneur, vraiment croire que si tu nous as parlé ainsi, Seigneur, si Jésus a parlé ainsi et que ses paroles sont restées, eh bien là, consignées dans le message de l'Évangile, c'est pour les hommes de tous les temps, qu'ils soient religieux, qu'ils le soient d'ici ou d'ailleurs, c'est pour chacun et chacune. Et nous voulons bien sentir, Seigneur, que, à défaut de la grâce qui nous est proposée, de l'invitation, à défaut, Seigneur, de cette proposition, Seigneur, manifestée par ta bonté et ton amour pour chacun, alors si nous la refusons, il ne reste plus qu'une solution, Seigneur. Ce n'est pas toi qui la désires, ce n'est pas toi qui la donnes, mais c'est nous qui nous donnons, Seigneur, notre propre jugement et notre propre condamnation par notre refus, par notre obstination ou notre entêtement, Seigneur, à ne pas vouloir recevoir, à ne pas vouloir croire, parce que, Seigneur, notre salut, il repose tout simplement, eh bien, dans la foi, en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est l'héritier de Dieu, qui est celui qui nous ouvre les portes de son royaume, qui vient dans notre monde, qui est l'image de la vigne, et nous voulons, Seigneur, te demander toute ta grâce pour que nous puissions croire, et que de là, Seigneur, nous puissions porter des fruits, pour que nous puissions être transformés par ta parole, changés, Seigneur, en nouvelles créatures, par l'œuvre du Saint-Esprit que tu as mis, Seigneur, ici-bas, que tu as envoyé ici-bas, pour que les hommes, Seigneur, eh bien, puissent vraiment bénéficier et recevoir, Seigneur, le don des dons, la personne de Christ qui nous sauve. Merci, Jésus. Amen. Amen.